Jean Charest est perçu dans le monde agricole comme un premier ministre qui avait de la difficulté à décider, à prendre position. Chez les agriculteurs, on a surtout retenu de lui diverses mesures d'allègement des systèmes de protection comme l'assurance stabilisation des revenus agricoles, l'ASRA. Pourtant, avec un certain recul, lorsqu'il s'ouvre publiquement, comme il l'a fait à cette soirée sur la souveraineté alimentaire, Jean Charest apparaît avoir joué un rôle important à la fois dans des négociations internationales et dans la mise en place de certaines mesures que l'on pourrait assimiler à de la sécurité alimentaire, par exemple la création d'Aliments du Québec et le maintien de la gestion de l'offre, ce système qui, dans certains domaines de production, le lait, les œufs et la volaille, limite la production au niveau des besoins du marché interne. Ainsi, ces secteurs sont plus stables, les agriculteurs et les consommateurs moins sujets à des crises de prix et de marché. L'entrée au pays de ces denrées est très limitée et, en parallèle, les producteurs d'ici ne peuvent exporter qu'en payant des droits très élevés. Après Alain Lipiette et Geneviève Parent, Jean Charest a donc répondu à la question « Y a-t-il un avenir pour la souveraineté alimentaire? »
Est-ce que nous allons maintenant, après avoir connu une période d'expansion sur le plan commercial, revenir vers une période plus régressive, une période de fermeture, de protectionnisme? C'est-à-dire, est-ce que nous entrons dans une période de croissance économique lente? On a connu une période spectaculaire de croissance économique grâce à des améliorations de nos conditions sanitaires, etc., mais que cette période-là est terminée et que dorénavant, dans les pays en voie de développement, nous allons connaître une période de croissance lente. Depuis les 5 dernières années, le commerce est au ralenti. Il y a quoi derrière ça? D'abord, la crise financière économique. Il y a la Chine qui pèse d'un poids très important dans l'économie mondiale, en particulier dans ses liens avec les pays en voie de développement, qui dépendaient beaucoup de la vente de ressources naturelles vers la Chine pour avoir de la croissance. Là, je parle de l'Afrique, de l'Amérique latine, un pays comme le Brésil, par exemple, puis même le Canada, qui vend beaucoup de ressources naturelles. Donc, il y a effectivement un ralentissement. Et il y a ce phénomène politique dont vous parlez, qui est présent à la fois en Europe, très présent aux États-Unis, qui nous étonne, nous, les Canadiens, parce qu'on observe ça aux États-Unis, le discours de M. Trump, le discours de M. Sanders. On peut parler longtemps des déclarations qui, nous, ça ne correspond pas du tout à nos valeurs. On trouve ça étonnant, ce qu'il dit, Trump. Mais une fois qu'on passe par-dessus ça, il reste toujours que M. Trump et Mme Clinton, Bernie Sanders, mettent le doigt sur une chose que nous, on n'avait pas perçue. C'est très, très haut niveau d'anxiété dans la société américaine au sujet de leur avenir économique, sur le fait que les gens gagnent moins d'argent, leurs revenus ont baissé. Et les gens, s'il y a un groupe dans la société américaine qui sont plus affectés que d'autres, c'est les hommes blancs des cols bleus de la classe moyenne qui ont perdu beaucoup de terrain depuis les 30 dernières années. En passant, le phénomène est en partie vrai au Canada, un petit peu moins vrai parce que notre secteur des ressources naturelles a réussi quand même à créer pas mal d'emplois. Alors donc, il y a ce débat qui est présent en Europe, présent chez nous, en Amérique du Nord, sur notre avenir commercial. Ça m'amène à vous parler de l'OMC qui, en 2007, a déraillé. Les négociations de l'OMC, puis à l'OMC, à chaque fois qu'on avait des discussions, au centre de tout ça, sur le plan politique, je l'ai vécu, moi, tant au Québec qu'au fédéral, il y a toute la question agricole, agroalimentaire. Et sur le plan politique, les gens de ce secteur-là pèsent lourd dans la balance, et avec raison, pour défendre. En 2007, donc, ça déraille, et là, le Canada propose aux Européens de négocier une entente avec nous, qui est l'accord économique, commercial et global, qui est dans les dernières phases de ratification en Europe. Ce n'est pas fait encore, puis c'est beaucoup contesté. Tant par la droite que la gauche en Europe. Je vais vous raconter une anecdote, parce qu'au moment où on commence, c'est moi qui propose ça, qui relance ça à Davos en rencontrant Mandelson, qui est le commissaire au commerce de la Commission européenne. Il me dit d'abord, « Monsieur Charest, je suis prêt à vous écouter si vous voulez proposer une entente avec le Canada, mais je veux que vous me donniez une assurance avant. Si on négocie avec le Canada, je veux que vous me donniez la garantie que les provinces seront à la table. » Alors, je me suis dépêché et dit, « Oui, il n'y a aucun problème, on va tout être là. » Je n'ai pas parlé à personne, mais on va être là. Pourquoi? Parce que le Canada, sur la question des compétences, sur qui fait quoi, gardez à l'esprit que le Canada, c'est une des fédérations les plus décentralisées au monde. et que sur les questions de ressources naturelles, ce sont les provinces qui ont les compétences et qui sont en première ligne. Le gouvernement fédéral ne peut pas conclure des traités dans des domaines de compétences qui relèvent des provinces. Un exemple facile, l'éducation. Si au Québec, on dit non, on n'est pas lié, à moins qu'on y participe. Il faut se poser la même question dans tout ce qui touche les compétences au niveau agricole. Qui fait quoi? Qui a la responsabilité? Mais tenez pour acquis qu'en première ligne, ce sont les provinces, donc le Québec, qui est le premier responsable. Le fédéral arrive après, mais c'est d'abord nous. Ce n'est pas insignifiant ce que fait le fédéral, mais c'est d'abord nous qui avons notre mot à dire et qui devons décider ce que nous voulons. La deuxième chose qu'on fait, on lance des négociations. Mais moi, comme premier ministre du Québec, je parle là, avec ça, ce projet-là, auquel je crois beaucoup, j'y crois encore. Et partout, tous les gens que j'ai rencontrés, je leur disais deux choses. Un, on s'entend sur le fait que ce n'est pas nous qui allons, le Canada et l'Union européenne, régler les enjeux agricoles. L'OMC n'a pas été capable de le faire. Les enjeux entre les États-Unis et l'Europe, ce n'est pas nous qui allons régler ça. Puis, il y a une nuance qui est très intéressante là-dedans, parce que les négociateurs d'entente de libre-échange, ils ne veulent rien savoir d'enlever un enjeu en partant. Ils ne voulaient rien savoir de l'idée de dire « on enlève l'agriculture en partant ». Alors, on les a doublés et on a dit « ah, parfait, on ne l'enlèvera pas, on va juste se dire qu'on ne le réglera pas ». Et la deuxième chose que je disais à tout le monde, c'était la culture, c'est une exception qui doit être protégée. On ne va pas régler l'agriculture et deux, on va faire une exception pour la culture. Pour nous, c'est sacré au Québec. Alors, on a avancé dans les négociations. On a fini avec une entente qui ouvrait une partie du marché, mais en protégeant la gestion de l'offre. Et il y a toute la question du fromage dans l'entente qui a été chaudement beaucoup discutée, le 17 000 tonnes de plus que le Canada va accepter. Mais on voulait également une entente qui ouvrait sur une coopération dans l'innovation, la culture, sur la mobilité de la main-d'œuvre, sur la coopération universitaire. Et ça, les négociateurs d'accords de libre-échange traditionnels, eux, ils ne veulent pas entrer dans ces sujets-là. Eux autres, ils disent « moi, je négocie des tarifs, puis je négocie des lignes de tarifs, mais je ne suis pas là pour négocier des politiques sociales ». D'ailleurs, l'Europe nous a beaucoup embêtés parce qu'ils nous ont demandé d'inclure dans l'entente des garanties sur les droits de l'homme. On leur a dit « écoutez, on est le Canada quand même, on a une constitution, une charte, on n'est pas… » Mais leur logique à eux était la suivante, ils ont dit « écoutez, si on ne le fait pas avec vous, après ça, nous, on va négocier avec d'autres pays à qui on veut négocier, puis eux vont nous dire « vous ne l'avez pas fait avec le Canada, pourquoi vous ne l'avez pas fait avec nous ?» C'est une espèce de logique un peu tordue, là, mais avec laquelle il fallait composer. Ce que j'essaie de vous dire, c'est ceci, c'est que nous cheminons vers, je pense, une nouvelle étape dans la négociation des ententes qui devront nécessairement aborder des enjeux qui touchent la vie de tous les jours et qui viennent humaniser, en quelque sorte, les accords de libre-échange, à défaut de quoi les populations n'appuieront pas les désaccords. Il faut toucher à l'environnement. Il faut protéger le droit des États de légiférer dans ces domaines-là. Il faut absolument le faire. Si on ne le fait pas, les populations ont raison de dire « nous, on n'accepte pas ces ententes-là. Ça ne marche pas pour nous. » Alors, l'accord était là. Le PTP, qui est on appelle en anglais TPP, c'est l'expression, le Trans-Pacific Partnership, le partenaire transpacifique, c'est une autre histoire. Je vais vous raconter une autre anecdote parce que moi, je n'oublierai jamais une rencontre que j'ai eue avec l'ambassadeur américain qui s'appelle Jacobson. Ce n'est pas un secret, je peux en parler. Il vient me voir à mon bureau au moment où le Canada adhère, monte à bord de ce train-là qui est en marche. C'est 12 pays. Ça a commencé avec 4. Puis le Canada embarque tard dans les négociations. Les Américains acceptent que nous puissions y participer. Mais Jacobson vient me voir à Montréal et il me dit « je suis venu vous voir, monsieur le premier ministre, parce que je voulais vous informer de ceci. Pour nous, la gestion de l'offre est sur la table. Puis il faut que vous le sachiez. » Alors, dans les autres négociations, mais dans cette négociation-ci, la gestion de l'offre, tant qu'à nous, est sur la table. Et la Nouvelle-Zélande et l'Australie sont d'accord, il faut que vous éliminiez la gestion de l'offre si on veut conclure une entente. Alors, évidemment, la position qu'on a prise, vous pouvez dire ça si vous voulez aujourd'hui, la gestion de l'offre ne sera pas remise en question. Et on a cheminé comme ça dans les négociations pour finalement conclure une entente qui ouvrait, oui, davantage, avec des compensations, vous vous rappelez, ça a été réglé pendant la campagne électorale, assez fortes que le gouvernement Harper avait annoncées, et d'ajustements. Et je pense, moi, que la gestion de l'offre est protégée dans ce contexte-là. Sauf que ça a été une première dans les négociations dont j'ai été témoin, où on se faisait dire très directement, c'est un enjeu, puis il faut l'éliminer. Et je pense que ça, il faut en prendre note. L'autre chose que je voulais ajouter sur le contexte, c'est très intéressant parce que là, dans le secteur du lait, par exemple, l'Union européenne avait des programmes depuis 1984. En 2000, dans l'Union européenne, 66 % du budget allait au pacte agricole commun. Aujourd'hui, c'est 38 % Et une partie de ça, ça a été le fait qu'ils ont lâché les quotas. Bien là, suite à la crise de 2008, la consommation a baissé. La Chine a ralenti. Pour les Européens, c'est la fermeture du marché russe qui leur a fait très mal. Et en Europe, la production a augmenté. Le résultat, une crise assez grave en Europe aujourd'hui, entre autres dans le secteur laitier. Surproduction, baisse des prix. En même temps, une surproduction, d'ailleurs, du blé partout dans le monde, en particulier en Russie. Le Canada va avoir sa deuxième meilleure année de tous les temps cette année, les États-Unis. Alors, surproduction, baisse des prix, et ça a forcé l'Union européenne et la Commission à décaisser $1 milliard cette année pour pouvoir soutenir ces producteurs. Ça pose un contraste intéressant avec nous, puis la gestion de l'offre. Ça, à mon avis, ça jette un éclairage nouveau sur le choix que nous avons fait au Québec et au Canada de gérer notre secteur différemment. Et cette crise-là, elle est partie pour durer un bon moment.
Selon Jean Charest, le Québec s'est donc évité une crise agricole majeure lorsqu'il a réussi à sauvegarder la gestion de l'offre. Face aux consommateurs, les bases sont en place, par exemple avec Aliments du Québec, pour élaborer ce qui devrait être une véritable politique bioalimentaire ou agroalimentaire, ou encore de souveraineté alimentaire ou de sécurité alimentaire. Peu importe le nom, l'essentiel étant que le Québec doit continuer de stimuler ses productions, d'augmenter son niveau d'autosuffisance alimentaire, tout en jouant le jeu de l'ouverture des marchés. Cela implique une concurrence plus vive et donc une sensibilisation et une information plus développée auprès des consommateurs. Ici Lionel Levac, c'était le troisième blog de cette première série sur la souveraineté alimentaire. Un peu plus tard cet automne, je reviendrai sur certains éléments spécifiques abordés et débattus dans cette discussion sur le sujet. À bientôt.